arrivé. Voilà, alors on va entamer, si vous voulez, cette étude sur sagesse et chorma. Donc, comme dit, c'est articulé autour du pasuk Kashrei Adam, bonheur et sagesse, oui. Donc, articulé autour du pasuk qui dit Ashrei Adam, Matsa, Chorma. Ashrei, oui. Bon, il y a l'idée de heureux, peut-être donc bonheur ou heureux. Heureux l'homme qui a trouvé la Chorma. Ve'adam Yofik Temuna. Et ça porte aussi, Ashrei porte aussi sur Adam Yofik Temuna, l'homme qui fait sortir, oui, la réflexion, on va dire. Temuna, la compréhension ou la réflexion. Hein. Enfin, je m'explique, il y a une différence entre Chorma et Temuna ici. Oui, c'est marqué Matsa Chorma. On a trouvé la Chorma. Il dit un peu comme on aurait trouvé un objet perdu. Donc la Chorma, elle se trouve. Bon, elle se trouve peut-être pas comme ça, comme un objet perdu, mais au sens où on la collecte. On rassemble de la Chorma. On collecte de la Chorma. Par contre, Tevuna, c'est une réflexion. Et la réflexion, il faut la faire sortir. Oui. Donc, pour expliquer, si vous voulez, les termes dans Michelet, Ashrei Adam Matsa Chorma, heureux l'homme qui a trouvé la Chorma. Oui, encore qu'on pourrait dire autrement Matsa, mais disons, il y a une explication qui dit comme ça. Matsa, donc c'est un rapport de collection. On collecte la Chorma, on l'apprend. Adam Yofik Tevuna, oui, et l'homme fait sortir, c'est un travail de Yun, une réflexion pour faire sortir une compréhension derrière cette Chorma ou à l'intérieur de cette Chorma. Autour de ça, oui. On va déployer, si vous voulez, une certaine réflexion forcément ponctuelle, on va dire, en tout cas, sur ce Ashrei. Oui. En quoi il y aurait un bonheur, je ne sais pas, je n'aime pas tellement le mot bonheur d'ailleurs, mais en tout cas, en quoi ça rendrait heureux, oui, l'homme, oui, d'avoir acquis de la Chorma et d'avoir, oui, extrait une compréhension. Oui. Il y a une compréhension, il y a quelque chose à entendre. Les psukim suivants, effectivement, sont dans le prolongement de ce Ashrei. Hein, Kitov Saro, je les cite juste pour situer. Hein, Kitov Saro, Misra Kosef, l'échange, le commerce, si on peut dire, le commerce, oui, de la Chorma, il est meilleur que le commerce de l'économique. Oui. Omecharutz Tevoso, et sa récolte, oui, est plus précieuse, oui, que Harutz, il me semble, oui, une pierre précieuse, minza avhu, une sorte d'or. Oui. Donc, bon, très bien, c'est ce type d'image. Donc, ça veut dire, dans le prolongement, si vous voulez, de ce qui rend heureux l'homme, oui, eh bien le commerce, oui, le commerce de la Chorma est plus riche, oui, apporte plus que tout autre commerce. Yokoro imi pninim, toujours dans la même idée, la Chorma est plus précieuse que pninim, des pierres précieuses. Vechol chafotseo lo ishivuba, chafotseo lo ishivuba. Tout ce que tu peux désirer, oui, ne vaudra jamais la Chorma. Horer yomim bimino, il y a la longueur de vie à sa droite, bismolo sherbe kavod, oui, à sa gauche, la richesse et l'honneur. Bon, très bien, tout ce qu'on peut vouloir, oui. Doroche odarke noam, ces chemins sont des chemins de sérénité, noam, de tranquillité. Vechol ne sivosi o shalom, et tous ces sentiers sont des sentiers de paix. Eitraim Hil Mahazikimbo, et ce pasouk-là, je voudrais le commenter avec Malbim, et ça servira d'ouverture. Eitraim Hil Mahazikimbo, la Chorma, ou la Torah ici, parce qu'Eitraim c'est la Torah, la Chorma dont on parle ici, c'est, ce que précise d'ailleurs Michel, il s'agit de la Chorma de la Torah, est appelé Eitraim Hil le Mahazikimbo. C'est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent, le Mahazikimbo, Chosek, oui, qui s'y accrochent. Oui, le somreo meouchar et ceux qui la soutiennent meouchar, c'est le même terme meouchar. Ils trouvent le bonheur entre guillemets. Hein, ils trouvent le hocher, ce qu'on avait dit avant ashrei. Et voilà ça. Donc le mot ashrei au départ, le mot meouchar à l'arrivée. Et là-dessus, le Malbim fait un commentaire. Il dit Eisraim hil marzikibo. Donc je vous le cite. Enfin, vous l'avez devant vous. Oui. C'est cette partie-là, c'est le Michelet que vous avez, vous Michelet avec le Malbim, la première ligne large du Malbim. Oui, ici, cette partie-là, Eitzreimhi, hein, là, à cet endroit-là, dans le Malbim. Eitzreimhi le Machazikimbo, Oui. Alors il dit c'est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent, ceux qui s'attachent à la chorma, qui s'attachent très fort. Ça tombe. Et suit comme ça. Dianou, le Hakovesh, c'est celui qui est Kovesh, qui conquiert la chorma, chez Marzigba Balkocha. Il attrape la chorma, Balkocha, ici dans le sens de force. Qu'il ou Achorma tire les parets de Mimeno, comme si la Chorma voulait fuir de lui, qui tive au Mitnagedla, parce que par nature, il n'a pas un goût pour la Chorma, il est obligé de l'acquérir un peu de force. Oui, pas quelqu'un qui a forcément l'habitude d'étudier, c'est pas son Teva, il est obligé de s'accrocher fort. Rak Umar Zigba Bechol Oz. Il s'attache à la Chorma, Bechol Oz, oui, avec force, courage. Veno manicha letzet, il ne la laisse pas sortir, si on peut dire, de lui, qui kovesh et titro, parce que bon, il domine son yetzer, bon, il fait un travail sur lui, comprends, il fait un travail sur lui, pour acquérir cette chorma. Ça ne lui est pas aisé, il fait un travail. Ça c'est Mahazikimbo. Ve tomcheo meushar, celui qui la soutient trouve le bonheur. Aïnou Micheu chez Tevash Libo Bilti Mitnaged la chorma. Ça, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un dont la nature est plutôt portée à étudier, à acquérir de la chorma. Son cœur ne s'oppose pas, donc c'est plutôt dans le sens du poil, son cœur ne s'oppose pas à la chorma. Chez Zen, ça arrive de l'arzikba. Il n'a pas besoin, l'arzikba balkocha, de s'accrocher à la chorma. Rak litmochota. Juste, il la soutient ou il la maintient. Oui, il a moins à courir après, il la retient, juste voilà. Ou meouchar. Bon, on dit celui-là, il est heureux. Vomar bechol echad rabuta. Alors le Malbim comprend, il dit, chacun des deux, on dit le côté le plus nouveau pour chacun. Il veut dire comme ça, celui qui est marzikimba, oui, il va dire que celui qui est marzikba, pardon, il va dire comme ça, ki zant shakovesh ou meushar beosher anefesh, que celui qui doit s'accrocher à la chorma, oui, il se trouve le bonheur. Oui, il dit En sarir le odienu, ça va de soi. On n'a pas besoin de le dire. Chez un tchadanu, mais atzmenu, parce que ça on sait de nous-mêmes. Chez le fi godel saharo lirvosh et ayetzer, yigadel oshrov saharo. Bon, c'est un peu une langue de moussard, mais je vais le déplacer après avec le maharal. Mais lui, il le dit dans cette langue-là. Suivant l'effort qu'il a fait, oui, godel saharo, on va dire l'effort qu'il a fait, lirvosh et ayetzer, oui, pour. Imposé à sa nature, oui, d'étudier, d'acquérir la chorma, hein, en fonction de cet effort-là, yigedel oshro besraro. Son mérite, bon, ça c'est son srar, et son bonheur sera plus grand. Je comprends pour lui que là où il y a un effort, là où il y a une bataille, oui, il y a plus de hocher. Donc pour lui, on n'a pas besoin de dire meouchar. Le Mahazik Kimbo, on n'a pas besoin de meouchar, oui, qui le foum tsara agra, bon, en fonction de l'épreuve, ou de la souffrance, oui, il y a aussi un mérite qu'il traduit en termes de meouchar, en termes de bonheur, oui. Rak sheinu medamim shemil chama pnimit azot shelochem imitzron lir le kovsho me kasser chayav. Par contre, on a pu croire que de faire un effort constant comme ça sur lui, c'est me kasser chayav. Ça pourrait raccourcir sa vie. C'est un effort, une tension. Là, si on dit etzraimhi, ça le fait vivre, oui. Alze omar shi lo etzraim chez Marechet Hayav qui allonge ta vie, qui lo ochel me et sachaim chez Haïdolom, comme s'il mangeait du et sachaim qui le fait vivre. Mais c'est la tomer, par contre, celui qui soutient, oui, la chorma, chez Oumi, chez la chorma, tishkon et slo beteva, celui qui a un penchant naturel pour la chorma et fait donc moins d'efforts, et il nomi chama pnimit, il n'a pas de bataille intérieure avec ça. A Yaole aldatenu, on aurait pu croire chez nos srar kolkar. Qu'il n'y aura pas de srar, qu'il n'y aura pas de hocher. On dit où chez Gam Tomria Meouchar. On dit même celui qui est Tomer, ouais, simplement Tomer la Chorma, il est Meouchar. Il a un hocher. Alors c'est de là, si vous voulez, que je voudrais partir, oui, pour rendre compte dans une autre langue, on va voir dans la langue du Maharal comment ça se formule, beaucoup plus indirect dans le Maharal, mais cette idée qu'il y a un hocher dans la Chorma, oui. Mais c'est au cher, il est lié au combat de la Chochma. S'il y a un combat, oui, et très souvent la chorma c'est un combat, il y a un hocher, comme si le Malbim disait, ça semble évident, là où il y a un combat, c'est là où il y a un hocher. Il y a aussi un hocher, même pour celui qui simplement s'efforce de maintenir une chorma, mais où il y a moins de batailles. Oui. Il y a moins de hocher, simplement c'est un ridouche, c'est moins évident. C'est moins évident. Alors, c'est surtout son côté, l'évidence que nous dit le Malbim, oui, il y a une évidence que le hocher, il est lié à la bataille. Il y a quand même un hocher dans le cadre de la chorma, si quelqu'un de la chorma, même si la bataille est moindre, c'est un ridouche. C'est aussi un ridouche. Mais c'est plutôt le côté, ce qui m'intéresse, c'est ici, le premier propos du Malbim, si vous voulez, c'est l'ashrei ici, le bonheur dont on parle, oui, c'est un bonheur, oui, un bonheur de combat. Oui. On a acquis une chorma, mais dans un certain combat. Oui. Alors, on va voir, on va reprendre, on va suivre un Maharal, oui, qui va nous amener à cette idée-là, bon, par un détour. Alors, ce Maharal, donc ça j'ai aussi dit, c'est Resh Kaf Gimel, donc c'est la seconde page pour ceux qui l'ont, oui. C'est un Maharal assez sur une marloquette classique, oui, on sort de Pessah, sur une marloquette classique, si Matrilin Bignout, oui, enfin on dit Matrilin Bignout ou Messaïm Bechevar, vous savez que. Dans la Haggadah, oui, on commence par dire Avadim Oyinu, on commence par rappeler, oui, qu'on était esclave, et après, si vous voulez, on rappelle la sortie d'Égypte, tous les Makot, Hachemi nous a sortis. Ça s'appelle Matrilin Begnout, oui. On commence par, disons, mentionner l'état d'abaissement de Am Israël. D'accord. Oui. Okay. Alors, on commence par le Gnout, c'est-à-dire l'état d'abaissement d'Israël. On commence par mentionner l'esclavage, l'état d'abaissement, oui, d'Israël. Et ensuite, on va mentionner, on va décrire la libération que Hachem a faite au peuple juif. Donc ça s'appelle Matrilin Bignout ou Messaïm Bechevar. On commence par l'abaissement et ensuite, on va détailler le Shevar, l'élévation qui suit à travers la libération d'Égypte. Alors le Maharal, oui, va expliquer dans un premier temps, on va le suivre, oui, un tout petit peu en dehors du sujet, mais on va y revenir, oui. D'abord, que veut dire Matrilin Bignout? Oui, on commence par le pourquoi ça? Pourquoi commencer par rappeler l'esclavage? Mais surtout, il va s'apesantir ensuite sur une discussion, Rabbi Shmuel, oui, à l'intérieur de cela. Il y a une discussion, quel est le Gnout? Quel est l'état d'abaissement que l'on va mentionner en premier, qui est principal. Est-ce que c'est l'esclavage d'Égypte, des Juifs en Égypte, oui, ou bien le fait qu'avant Abraham, oui, les ancêtres d'Abraham, oui, étaient idolâtres. Donc, on provenait d'idolâtres, oui, et Abraham est sorti de cette idolâtrie, comme il est sorti d'Ur Kasdim aussi, il y a un déplacement, oui, un déplacement intérieur, un déplacement extérieur. Il y a une sortie, oui, il y a une apparition d'une dimension nouvelle avec Abraham, avec l'aide d'Hachem, on sort de l'idolâtrie. Parallèlement, si vous voulez, il y a une sortie d'Égypte. Le peuple juif, cette fois-ci, ce n'est plus un individu, c'est tout un peuple qui est enfoncé dans l'Égypte et qui va surgir, oui, surgir et surgir armé ou rapidement armé par la suite d'une Torah, oui, de cet esclavage. Alors, discussion. Lequel des deux on mentionne en premier? Il y a deux mouvements parallèles, oui, qui s'expliquent l'un par l'autre, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que, quelque part, le mouvement de sortie du peuple d'Israël d'Égypte, eh bien, il provient du mouvement de sortie d'Abraham de l'idolâtrie. Ce sont deux mouvements parallèles. Oui. On va citer les deux. Je comprends qu'on cite les deux. La question n'est pas de savoir si on n'en cite qu'un des deux. On cite les deux. Le parallèle, si vous voulez, doit être dit pour une autre raison. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mais la question, c'est lequel des deux on cite en premier. Et je comprends, on va le voir dans la suite du Maharal, que l'enjeu, oui, parce que le Maharal va finir par dire que ça, la discussion n'a pas d'impact sur la structuration réelle de la Gada. Oui. De toute façon, la Gada, pour l'un comme pour l'autre, elle sera comme on a. Oui. C'est surtout une discussion, oui, sur, oui, le gnout principal, je comprends, l'axe principal, oui, qui doit être mis en avant. Est-ce que l'axe principal, c'est esclavage-libération, esclavage du peuple en Égypte, libération, ou bien exil cette fois-ci du Nefesh, de la Neshama, idolâtrie, oui, et libération, que je traduirai aussi par acquisition, oui, acquisition ici d'une chorma, c'est-à-dire la sortie de l'idolâtrie, c'est, si vous voulez, par Abraham, l'acquisition aussi d'un lien avec Hachem, l'acquisition d'une chorma. On a idolâtrie, oui, qui est un exil, il va le dire, on va le suivre dans les mots, un exil, oui, de la Neshama, oui, de la personne, oui, qui est dans l'obscurité, et on sort de cet exil de la Neshama, oui, vers une autre dimension, qui devient une dimension de Torah, une dimension de Chorma, avec Abraham, ou bien on a un autre axe, une autre problématique, oui, c'est l'esclavage, que le Maharal va appeler physique, ce sont les corps, ils sont esclaves, oui, pas forcément tellement dans leur tête que dans leur corps, et ils vont, dans leur personne, ils sont asservis au sens premier du terme, au travail, oui, et ils vont sortir de ça. Qu'est-ce qui est, et ils vont se libérer de, des liens, des chaînes, si on peut dire, de leur corps. Oui, peut-être toutes les chaînes du corps, on peut, oui, il y a toujours un aspect de métaphore, mais ça n'est pas la même chose que l'axe idolâtrie et sortie d'idolâtrie. On va essayer de voir, on va essayer de comprendre quelle est la discussion, qu'est-ce qu'on nous veut avec ça, lequel on met en premier. Voilà. Alors je vous propose de traduire déjà le Maharal, d'aller dans les mots rapidement, et d'essayer de rendre compte dans une lecture possible de l'enjeu. Alors Tznan Berve Psachim, donc on enseigne Berve Psachim, Matril Begnou, Toumesaim Bechevar. Donc on commence par l'asservissement ou l'avilissement, je traduirais Gnout, l'avilissement, oui. Mais il y a différents types d'avilissement, évidemment. On commence par citer l'avilissement d'Israël, oui, ou Messaïm Bechevar, pour citer ensuite le Shevar. Vedoresh kol haparasha kula me'arami oved avi, ou kumar megmara baibik. Alors, on est Doresh. Après, toute la paracha de Kitavo, là, Arami oved avi, oui, ça veut dire toute la paracha qu'on cite dans la Gada, où on amène tous les psukim décrivant les étapes de la libération, oui. Au Komar Gemara, Maï Begnout, alors la Gemara dit comme ça, qu'est-ce que c'est l'avilissement duquel on parle? Rav Omar, Mitrila Ovdi Avodazara, donc comme on vient de dire, Rav dit, l'avilissement, c'est l'idolâtrie des ancêtres d'Abraham. Ou Shmuel Omar, Ravadi Maïno. Les deux sont dits dans la Gada. Hein. Et Shmuel dit, Avadi Maïno. On commence, de fait, la Lachai, comme Shmuel dit plus loin le Maharal, on commence par Avadi Maïno, on commence par cela. Oui? La Lachai étant comme Shmuel, Avadi Maïno, donc on était esclaves. Pirouche qui est le atril bechevar miyad. Alors, première chose, pourquoi ça? Alors, il dit, on ne peut pas commencer tout de suite par dire le chevar, oui. Miblish et saper trilagnout. Il faut d'abord mentionner l'avilissement. Sheoz ayamashma shaita otsa bemikre. Il dit, si on ne mentionnait pas la situation qui prévalait, c'est-à-dire l'esclavage ou l'idolâtrie, on aurait pu croire que la otsa était bemikre. Shekar kara shenase tovazot l'Israël. Chez nous qui viennent à poil à poil. On aurait pu croire que c'est arrivé un peu sans une intention, je traduis rapidement, hein. C'est arrivé sans une intention du poel et la peoula. C'est-à-dire celui qui nous a libérés l'a fait un peu comme ça, du revers de la main. Si on n'expliquait pas la profondeur de l'avilissement, l'esclavage, oui, c'est un peuple d'esclaves, rien, complètement asservi. Oui, il n'y a pas d'organisation politique, si vous voulez, ou autre, c'est un peuple asservi. Oui. Ou bien on a des idolâtres au fond de l'idolâtrie. Et que de là surgisse quelque chose, bah, il faut un travail d'extraction. C'est ça qu'il veut dire. Il faut faire sentir qu'il y a ici une main forte, hein, il y a Trazaka, il y a une main forte d'Hachem, oui, pour sortir Abraham, pour aider Abraham, qui fait son propre chemin là-dedans, mais quand même pour aider Abraham à exister du dedans de l'idolâtrie où il est, et pour aider aussi le peuple juif à sortir, oui, de l'Égypte. Il faut dire, disons, l'écart, quoi. Il faut mentionner l'écart. Ils ne sont pas sortis d'Égypte parce que de toute façon, la situation était mûre. Il n'y avait plus qu'à pousser un peu et ils sont sortis. Il y a parfois des situations historiques comme ça. Là, non. Il a fallu sortir un peuple qui n'existait pas et qu'on est venu chercher, qu'on a fait exister. Oui. Et donc, il faut mentionner l'état d'avilissement qui prévaut pour qu'on comprenne bien. Alors, il faut faire un travail ensuite. Dans la Haggadah, si vous voulez, il y aurait un travail à faire, mais qu'on comprenne bien, on veut essayer de faire sentir, un tant soit peu, oui, que cette sortie d'Égypte, c'est quelque chose c'est de l'ordre d'un S, oui, c'est un retournement, on va dire. C'est un véritable retournement. C'est pas quelque chose qui va de soi. c'est pas une sortie naturelle, prévisible historiquement, à la suite d'un long processus. Il y a des choses comme ça, là c'est pas le cas. Voilà comment je traduirais à peu près. Et il dit on aurait pu penser que c'est bémicré. Il lui appelle ça bémicré, c'est-à-dire un peu comme ça, du revers de la main. Chez l'eau, qui veine à Poel et la Peoula. Que celui qui a fait ça, hein, il n'a pas eu vraiment une cabana, il n'a pas eu besoin, ça s'est donné un peu comme ça. La situation était mûre, alors ça s'est produit. Parfois, c'est comme ça, la situation est mûre, il y a un attentat à Sarajevo et tout saute. Parce que tout le monde attend depuis 20 ans de s'en mettre plein la figure. Et puis, voilà. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire, il ne faut pas grand-chose, une étincelle, et puis voilà. Là, ce n'est pas cet ordre-là, il fallait aller les chercher. Faisait qu'il y ait chené poalim, il y a deux types d'actions, rapidement. Aïchad ou poel bemikré. Il y a des actions comme ça, bemikré, par hasard, oui, des coïncidences presque. Vacheni ou poel beitsem, et l'autre c'est une action voulue, beitsem. Une action essentielle, je traduirais un vrai travail, un vrai travail. Oui. Comme un accouchement, il faut, c'est un travail, on dit aussi, oui, c'est un vrai travail, ça ne se fait pas comme ça, voilà. À poel bemikré, il donne un exemple, un machal, si vous voulez. Ce qu'on appelle quelque chose qui est bemikré, ce qui est un peu une coïncidence, Zerbaïd chez Unisraf, il y a un feu, il y a une maison qui brûle, ou Ba Matar ve Kabaïta Srefa, la pluie tombe, ça éteint. Mais bon, bah c'est un hasard, c'est une coïncidence. La pluie est tombée, ça a éteint le feu, oui, mais bon, bah personne n'a voulu ça, c'est-à-dire, bon, c'est l'exemple extrême, si vous voulez. Personne n'a rien fait là-dedans. Il y a un feu, il pleut, ça s'éteint, ben bon, ben voilà, c'est-à-dire, mais. Il n'y a pas d'intention, il n'y a rien à prendre de là, si vous voulez. On ne va rien apprendre. Le feu s'est éteint, il a plu. Oui, ça ne dit rien à personne. Où est le travail ? Amatar poel akiboui, oui, c'est la pluie qui fait l'extinction, vaut poel bemikré. Mais c'est un agent de coïncidence. Oui, chez l'Oaya mekaven dirvot, la pluie, il n'y a aucune intention d'éteindre. Il n'y a pas d'intention, il n'y a rien. Ven amatar nimshar achasrefaklal, la pluie n'est pas venue à cause de l'incendie. Personne n'a rien fait là-dedans. Achini poel beisem. L'autre, il appelle ça hein, une action voulue. Oui. Ou bekavana, oui, il y a une intention. Michiro et Beiton Israf, quelqu'un qui voit sa maison qui brûle, ou mekave auto et qui va l'éteindre, oui. Zeu poel beisem. Bon, ça, c'est une action, c'est un travail. Oui. Kivan shaya kavanato arishona, son intention était d'amener de l'eau pour éteindre. Shua kibou, imipnea srefa. Bon, donc il y a une intention, on sent. Alors, c'est ça qu'il veut dire, il faut essayer de faire passer que dans l'Égypte, ce qui se passe, c'est le résultat d'une intention. Ça ne peut pas s'être fait tout seul, il a fallu que le ciel s'en mêle, et c'est-à-dire, on rame à contre-courant. Si vous voulez, je serais tenté de dire aussi, la pluie, elle n'a qu'à tomber, oui, elle tombe, ça éteint. Mais pour éteindre, il faut, pour qu'un homme éteigne, il faut puiser l'eau en bas, la porter, c'est du travail, oui. L'eau, elle descend, elle ne monte pas toute seule, oui. C'est un petit peu comme ça aussi, on pourrait dire comme ça. L'Égypte, faire remonter les Juifs d'Égypte, oui, il fallait les chercher. Oui, c'est pas tombé tout seul. Alors c'est ça qu'on veut essayer de faire sentir. Voilà ce qu'explique le marin. Très rapidement, le Fikar Elou Ayam Mesaper Atova l'Israël Bibli Agnout, si on ne mentionnait pas ce qui précédait, Aya Efchar l'Archov qui be mikre ba Geoula. J'aurais pu penser encore une fois donc que la Geoula est venue un peu, le fruit étant mûr. Oui, c'est une situation naturelle. Ou une coïncidence, ou c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il veut dire ici. Je dirais plutôt, pour illustrer mieux, bon, ben une coïncidence historique. Oui. Ça s'est fait un peu tout seul, mais du coup, on n'apprend plus rien. Vous voyez, si c'est juste un événement historique banal, oui, on a rien à apprendre de cela. Le Fikar Yatril Kodem Agnout, Veyomar Bishwil Agnout, Chayel Israël, Al-Jebuchu Asa Imaem, Mashé Asa. Donc, ok. Va peula aya nimshar acha agnout veze poel beitsem shaya mekaven ala maase, je traduis pas, oui, shasaou bishvil agnout shaya l'Israël l'Israël min agnout, le kar samar de barav agnout shara kadosh baruch hu ou et agnout. Voilà, donc on insiste sur le fait que Hachem est intervenu par rapport à une certaine situation. Il y a une certaine situation et cette situation là a été, si vous voulez, traitée. C'est comme si on disait, oui, aussi dans un bon, dans tout domaine, ça veut dire il a fallu traiter la chose en profondeur, oui. Ça n'a pas pu se faire par hasard, il a fallu rentrer dans la profondeur des choses. L'eau que moi m'attarde, d'accord, pas comme la pluie. Ou kasher tabinot tedaot qui a shebar chez kodem l'eau gnout yoter shebar. Deuxième point, il dit quelque chose, un bienfait, un shebar, qui aurait été précédé d'un état d'avilissement. Oui. C'est plus un shebar, oui, on le ressent plus. Que moi chez tiré qui yom kodem l'eau à laïla. Il dit, alors il rentre dans une autre langue, on voit que le jour est précédé de la nuit. Là, on va s'approcher un peu plus de notre problème. Il veut dire, la shlemout, il y a un autre aspect, c'est quelque chose de shalem, c'est-à-dire de complet, on va dire, d'entier, d'achevé, on va dire, voilà. Quelque chose d'achevé, shalem, oui. Ça n'est pas initialement dans le Olam Hazeh. Le monde, initialement, le monde dans lequel on vit, il n'y a pas quelque chose d'achevé, d'ailleurs même le mot le dit lui-même, au départ. Oui. Si c'est là au départ, ce n'est pas achevé, c'est déjà là. Oui. Achevé, c'est un achèvement. Oui. Et Ashlama, oui, Shlemut, c'est quelque chose d'achevé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un travail à faire auparavant. Au Kacher Yagi Alenimsa Shlemut, Ma, Yef Sharshilo Otama Ala Betridato. Si quelqu'un atteint une quelconque élévation ou un quelconque achèvement, ça ne peut être qu'après un travail, c'est jamais initial. Kacheri Madriga Eliona Elokit, oui, parce que si c'est une élévation, oui, ça ne fait pas partie, hein, si c'est une élévation, si c'est de l'ordre de ce qu'on appelle ici Madriga Eliona Elokit, bon, une dimension d'en haut, supérieure, eh ben, ce n'est pas une dimension première du monde. Le monde d'en bas, tel qu'il est fait, ouais, il n'est pas d'emblée lié à l'en haut. Il faut qu'on le lie, nous. Il faut qu'on fasse le travail pour nous amener à une dimension d'en haut. Bien. Shena mekabel raoui la mala gdola elokit, d'accord. Le fika ramala elokit yugdam la gnout. C'est pour ça, c'est pourquoi toute dimension haute est, précédée, si vous voulez, d'une dimension, lui dit même de Gnout, ouais, basse, David dit basse, entre guillemets, en tout cas, une dimension, ouais, dont il faut sortir. Toute chose haute que vous voulez atteindre, et chaque fois qu'il y a une chose haute, peut-être il veut dire une autre idée, c'est que chaque fois qu'il y a une chose élevée en jeu, avant, ouais, il y a une dépression en conséquence, on va dire. Il y a un abaissement en conséquence. Il a l'air de décrire quelque chose comme ça. Dès qu'il y a quelque chose d'élevé qui doit être, qui est en gestation, ouais, il y a presque à l'opposé, oui, quelque chose, oui, de l'ordre d'un manque, oui, d'un abaissement. Le ficar, bon, ce genre de notion traîne beaucoup dans la chassidoute, ça part souvent du Maharal. Hein. Le fikar ma'ala elokit yugdamla gnout kulbasof yale el ma'ala elokit. Donc la ma'ala elokit, on n'y arrive qu'après. Kikar raoui el ma'ala elokit, shel chisarona mekabel enanim selbo trilar. Bon. Vezenim char el avayet olomazé. Et ça, c'est une donnée de ce monde-ci. Shen betrilato nimsa malato. Que l'élévation ne se trouve pas initialement. Voilà. Alors, il dit comme ça, hein. Velo aya, oui, velo aya kedai alomazé de kabel ama ala azot, le monde d'en bas n'est pas apte à recevoir une chose haute. Sheya or betridato, ici il change de langue, c'est pour ça que ça m'intéresse. Sheya or betridato, qu'il y ait de la lumière d'emblée. Il n'y a pas d'emblée de la lumière dans le monde. Kia or ou amala, oui, ou malata metsiut. Parce que c'est une langue ici, déjà, il faut prendre son temps pour traduire. La lumière et le or ici. Or, c'est aussi Torah, c'est la Chorma dont on parle ici. Le or, la lumière du jour, mais aussi la lumière de la Torah ou de la Chorma. Umalat ha-metsiout. C'est la dimension, c'est l'élévation de la metsiout, oui, de l'existence. Le kar yugdam la'ilaïla. C'est pourquoi, en termes de métaphore, la nuit précède le jour. Avant qu'il n'y ait de la chorma, il y a de la nuit, l'obscurité. On va dire de l'interrogation, si vous voulez. On peut le traduire comme ça. Il n'y aura pas de chorma s'il n'y a pas d'abord du doute, de l'obscurité. Vous voyez ? S'il n'y a pas d'obscurité avant, il n'y aura pas de chorma. S'il n'y a pas un questionnement, s'il n'y a pas quelque chose d'obscur, si vous n'avez pas perception de quelque chose d'obscur, il n'y aura rien éclairé. Vous voyez ? Si quelque chose doit être éclairé, avant, il y aura un questionnement, voire une obscurité. Ça se dit toujours, si vous voulez, c'est comme ça qu'ils veulent formuler. Oui, il y a un or, il va surgir un or que si d'abord vous percevez une obscurité. D'abord, il y a la nuit annonce le jour suivant. C'est aussi d'ailleurs le thème, hein, si vous connaissez dans Psachim, Or l'Arba Assar, oui, Justement, dans Pessah, on dit Or l'Arba Asar Bodkin. Vous voyez, on fait l'abdika la veille du 14. Mais c'est marqué, hein, vous connaissez, Or l'Arba Asar, à la lumière du 14. Vous voyez, mais la lumière là-bas, c'est la nuit. Vous voyez, la nuit, ici, elle annonce le Or, à tel point que la nuit elle-même est appelée Or. C'est l'envers, si vous voulez, d'un Or. Vous voyez, avant d'arriver à un Or, d'arriver à une lumière, vous voyez, il y a un questionnement. C'est ce questionnement-là lui-même et le travail de sortie de cette obscurité qui va produire la lumière. La lumière, elle ne vient pas comme ça. Tiens, j'ai compris quelque chose. J'avais pas de questions, mais j'ai compris. Vous voyez, ça... Vous voyez, un peu comme ça. Donc, je comprends ici, c'est ça qui m'intéresse, on est en train de parler, toujours dans cette histoire de Gnout, on est en train de nous décrire, oui, d'une manière générale, dans le monde, oui, il y a un cheminement. Quand il y a une élévation, oui, cette élévation, elle se fait, si vous voulez, un peu à contrario, oui, d'un problème, oui, d'un enfoncement. On a mis le pied quelque part dans un trou, oui, ça va être l'occasion de réfléchir, oui, et de s'élever. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Ou le ficar tim segam qui a olomazé ayano eg beshifluto mitrilat briato. Toujours dans ce genre de comparaison, on voit que l'olomazé, il était dans son abaissement au départ de sa création, ressemblant en cela à la nuit, atcheba Avram Avinu, jusqu'à ce qu'Avram Avinu arrive, chez Ouayom, Avram qui est le jour, donc c'est juste, on comprend les métaphores du Maharal, oui, Avram c'est la Chorma, c'est le jour, oui, chez Avram aya kemo or ayom. Oui, le monde a commencé, hein, c'était, le monde est, il dure 6000 ans si vous voulez, 2000 ans jusqu'à Abraham à peu près, oui, le monde est appelé Tohu, c'est le Tohu. Tohu, ça veut dire, il est désorganisé, c'est un peu, je ne sais pas si c'est synonyme d'obscurité, pas vraiment, mais une désorganisation, quelque chose qui n'est pas structuré. Le monde est déstructuré. Quand Abraham arrive, ça s'appelle Shtialpim Torah. Le monde commence à rentrer dans la Torah. Après, il y a Shtialpim Limot HaMoshiach. Oui, ça fait 2000 ans qu'on est dans Limot HaMoshiach. En tout cas, en train de l'attendre. Oui. Mais vous voyez, il y a ce guéder-là, un Tohu, puis Torah. La troisième étape, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, hein, voilà. Il y a cette opposition-là. Il y a un monde qui, d'abord, au début de sa création, est errant dans le Tohu. Jusqu'à ce que surgisse quelque chose. Donc, toujours cette image, oui. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse ici avec Abraham, c'est qu'on a le Tohu, c'est-à-dire l'errance, une certaine obscurité, et une lumière, le Yom, la Torah, c'est appelé aussi Shtalpim Torah, la Chorma. Ce qui va nous aider à comprendre par la suite, la discussion, oui, l'axe qui oppose Mitrila Ovdei Avodah Zara, Oyu Avosenu, oui, nos ancêtres étaient idolâtres avant qu'Abraham n'arrive, cet axe-là, je comprends que c'est un axe Tohu, Torah, un axe, si vous voulez, non chorma, oui, c'est l'idolâtrie, c'est l'obscurantisme, on croit dans des machins, oui, et opposé à une réflexion qui va bousculer, oui, ce n'est pas le soleil qui dirige le monde, c'est pas la lune, il faut aller au-delà, oui, il va falloir y avoir quelque chose qui va percer, mais c'est un axe, oui, chorma ou pas chorma, c'est un certain axe. Vous voyez, c'est ça que je voudrais dégager. Dans la métaphore même du Maharal, on comprend bien que l'axe, encore une fois, idolâtrie et Avram, si on peut dire, c'est un axe, encore une fois, non Chorma, oui, Chorma, l'acquisition de la Chorma. Or, à cela, on veut opposer une autre priorité, c'est esclavage et sortie d'Égypte. Ça aussi, c'est un Laïla et un certain Or, mais pas le même. Et ça, on va voir tout de suite. Le Maharal va cette fois-ci expliquer cette partie-là. Au le car, d'avoir zémoré al-mala eloki, d'accord, à chérir la maîtrise de la gnout, va harkar aya kodjbourou malé. On va arriver à cette droite. Veta marloket, voilà. Vers la fin de la première colonne, hein, c'est Rech Kavdalet. Veta marloket chelaem, Rech Kavdalet, oui, a une. Il y a un point, Tam Marloket Shelahem, c'est 3, on va compter, 3, 6, 9, 12, à 12 lignes avant la fin. Voilà, on en arrive à la discussion. Donc après qu'il ait, si vous voulez, expliqué déjà le fond de l'affaire, c'est que il y a un travail, oui, on n'est pas dans l'ordre du micré, il y a un travail, oui, qui se fait, oui, pour passer d'une certaine obscurité à une certaine lumière. Simplement, je vois qu'il y a une discussion et on va essayer de comprendre. Oui, c'est à peu près parallèle, oui, on passe dans un cas comme dans l'autre, d'un abaissement à une dimension haute, oui. Dans la sortie d'Égypte aussi, il y a au bout un Matan Torah, oui. Mais il me semble que quand même on met l'accent sur autre chose. Alors regardez ce qu'il dit. Tam Machloket, et c'est ça que je dois développer après. Tam Machloket Shelem, ki le da'at Rav, Mitrila Ovdei Avodah Zara ou Agnout. Donc le Gnout, l'abaissement, oui, premier, celui qui voudrait citer en premier, ou en tout cas principalement, c'est l'idolâtrie. Il y a une idolâtrie, et je comprends que si Rav veut mettre ça en avant, c'est que c'est ça le Icar. On met en premier ce qui est essentiel. Oui, c'est ça le Icar, oui, c'est sortir de l'idolâtrie, oui, faire le chemin d'Abraham, oui, sortir de l'idolâtrie. Chez Gnout, oui, d'avec Benefesh. Alors, il va dire quelques mots. Il dit l'idolâtrie, c'est un avilissement, hein, mais dans l'âme. Nefesh ici, il va dire Neshama après, ici, c'est la même chose pour lui, d'avec ben Nefesh, l'âme de la personne. Oui, son Sechel, si vous voulez. Qui bevada shen a gouf me kabel pri tout avodah zara. Le corps n'est pas atteint par cet avilissement-là. Ils sont libres. Ils sont des citoyens libres, mais idolâtres. Ils ont des choses dans la tête, ils ont une manière d'être, mais ils ne sont pas asservis. Oui. L'idolâtrie n'est pas un asservissement du corps. Ils sont pas, ils n'ont pas des contremaîtres sur le dos à devoir faire certains travaux. Ils vivent bien, ils vivent libres, oui, c'est en tout cas qu'ils sont libres, oui. L'idolâtrie n'a rien à voir avec ça. Mais il dit qui m'a neshama. Mais par contre, oui, il y a dans la tête des personnes, dans leur neshama, dans leur âme, dans leur sensibilité ou sechel, ici le terme est très, très large, oui, quelque chose qui est abaissé. On a affaire à des gens qui ont certaines choses dans leur tête, ça implique certaines manières de se comporter, oui, il y a un abaissement à ce niveau-là, mais pas dans le corps. Et Rav pense, Vetam Rav, Shechashav Gnout Nefesh Gnout Yoter. Lui pense que l'abaissement de la Neshama, le fait d'avoir un horizon limité dans sa tête, de croire d'être dans l'idolâtrie, idolâtrie c'est aussi associé, hein. C'est toujours plus ou moins, ça communique avec Arayot et Shirut Damim, donc avec les transgressions sexuelles et avec la violence, le meurtre, ça communique, oui. On est dans ce registre-là, oui. Donc, ça, c'est un gnout, c'est un abaissement. Asher Davak Benefesh, c'est un abaissement plus grave. Quelque chose qui touche la pensée de l'homme, oui, sa manière de voir le monde, sa vision du monde, on va dire, c'est quelque chose de grave parce que Gorem Abaddon. Ça amène à une destruction. Finalement, la personne, elle est détruite. C'est vrai que l'esclave n'est pas forcément détruit, oui, à moins qu'on l'achève physiquement, oui, mais il n'est pas forcément détruit de la même manière que quelqu'un qui, dans sa tête, oui, a une certaine vision de violence du monde, ça le détruit. Ça en fait un être qui peut, si ça va très loin, il y a une destruction qui se passe de l'être humain. Oui. C'est Gorem Abaddon qui a nefesh asher. C'est minachera où il est nefesh, parce qu'une neshama nefesh qui sort de ce qui revient à la nefesh, de ce qui est bon pour le nefesh, oui, un homme qui a une vision du monde faite de violence, d'injustice, de oui, mais sauf teler un nefesh l'ibadon, il se détruit. À la fin, il y a une destruction de sa personne. Ça peut être comme Staline, il peut rester en haut, avoir le pouvoir, mais il est détruit lui-même, oui, sauf qu'il détruit tout le monde avec. Il y a une destruction de la personne. Oui. Donc, le sauf teler un effet, je l'abandonne. Il y a quelque chose qui est destructeur gravement dans la personne s'il a une vision du monde dépravée. Oui. Comme c'est marqué, il cite un passouk, Vavati est un effèche, à Chotet, je ne sais plus quel passouk, je détruirai la nefèche. Il veut prendre ses passouks dans son sens-là, la nefèche. Oui. Une personne qui faute dans son effèche, je le détruirai. Et nous sommes de Iboud, oui, de destruction. Ou Mibne Shoumevi à Eder Gamour, donc puisque ce genre, puisque l'idolâtrie, oui, ça amène chez l'homme, et Eder Gamour, ce qu'il appelle une destruction profonde, une destruction totale. Oui. Quelqu'un, il n'a plus rien d'humain à la limite. S'il va jusqu'au bout de son idolâtrie, il peut en arriver à ne plus être humain du tout. Oui. tout en étant pas esclave, tout en étant toujours dans la fonction visée. Mais il y a quelque chose qui le détruit. Donc, puisque c'est tellement grave, Raou Yilot Nershavzi Gnutioter. Donc, ça c'est plus un avilissement. Un avilissement ouais, qui amène l'homme à pu être humain, à pu être un homme, à être pourri jusqu'à l'os, oui, si on peut dire ça comme ça, oui, c'est un gnout grave. Et Shmuel, ce qui est intéressant, c'est que Shmuel, non, il ne voit pas la chose comme ça. Shmuel, et la lacha est comme lui, Shmuel dit non. Le plus grave, c'est Avadi Moïse. Alors le Eved, lui, il n'est pas, s'il ne donne pas dans l'idolâtrie ambiante, oui, il n'est pas détruit intérieurement. Mais ça se passe autrement. Oui, donc l'esclave ne subit pas, ne s'impose pas, c'est sa faute. À l'idolâtre, oui, qui se détruit lui-même, le Eved, non, il peut garder des qualités morales, on va dire. Mais ça se passe ailleurs. Shmuel Sover Shagnut Asher Udabek Begouf. Lui, il pense qu'un avilissement lié au corps, c'est-à-dire il faut travailler, il faut, on est soumis à quelqu'un, on n'est pas. Un travail d'esclave, oui. Ou Yoter, c'est plus grave. Chez Gnout, chez l'eau, Gnout Nimsa venire Ata. C'est intéressant comme notion, il dit son Gnout, son avilissement, c'est un Gnout, un avilissement, Nimsa. Venire ata. On ne prend pas toujours des mots simples, qui se trouve et qui se voit maintenant. C'est-à-dire, c'est un avilissement dans le présent. Son présent ne lui appartient pas. L'idolâtre, sa vie lui appartient. Il est en train de se pourrir petit à petit. Oui, ça se verra au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, mais là, il vit. Ou il vit ce qu'il croit vivre, mais l'esclave. Son avilissement, il est Nimsa venire ata. Parfois il allonge le maral, parfois il dit trois mots et on est obligé de comprendre. Oui. Nimsa venire ata. Ça se trouve et ça se voit maintenant, ata. Donc je comprends que on lui a enlevé son présent. Il ne peut pas respirer, hein, beforer. Ils sont écrasés, oppressés, ils n'arrivent pas à respirer. Pas temps de respirer. On ne te laisse pas vivre. Oui. L'esclave, quelque part, il ne vit pas. Le Fikar Ravadi Maïnu Huikar Agnout. C'est pourquoi la problématique de l'esclavage. L'esclavage, c'est un avilissement plus grand. Gam ki Agnout d'avec Yoter Begouf. Sans compter que l'avilissement, il prend le corps. Bemache Agouf Ubal Chomer. Le corps, c'est la matière, c'est du corps. Ouais. Ou Gnout d'avec Beau. Quand le corps est avili, ouais, l'avilissement est plus prégnant. Si on laisse pas, si on oblige quelqu'un à travailler dans les égouts, oui, si le corps est avili, ça imprègne plus profondément. C'est différent d'un avilissement intellectuel ou autre, oui, mais quelque part, pour un homme, oui, comme ça Shmuel voit la chose, pour un être humain, ce qui vient, ce qui est dans l'ordre du corps, oui. C'est un avilissement plus grand. À travers son corps, l'homme est détruit, oui, en tout cas de manière présente, oui, plus fortement qu'à travers sa neshama. Là, il y a une discussion fine. Oui. Ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée. La neshama, à long terme, ça détruit complètement. Oui, si on a une neshama, une sensibilité abîmée. Mais ici, Shmuel, d'après le Maharal, il veut dire. Quand on tient, quand on avilit comme ça physiquement une personne, oui, c'est une destruction. Bon, on sait très bien que, suivant les cas, les Umot HaOlam, quand ils s'en sont pris au peuple juif, ils ont joué pas mal sur ce registre-là. Oui. Si on veut dire que quelqu'un, si on veut rendre, réduire quelqu'un à l'état d'épave, eh bien, si on l'a servi, on y arrive. Oui. Si on s'en prend au corps, on va réussir à abaisser. Avala nefesh afalgav shagnout benefesh mevilide eder basaf. Pour ce qui est du nefesh, même si à la fin il y a une destruction de la personne, en zederernout pour Shmuel, ça n'est quand même pas un avilissement que Moshe Obagouf comme l'avilissement à travers le corps. Shagnout shabirbo, parce que du yiddish agnout shayarbo, l'avidissement, oui, ça, ça a à voir avec le corps, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui est avidi dans son corps, un être humain avidi dans son corps, il est dans l'immédiat, il est plus profondément avili, gnout c'est un avilissement, il est plus profondément avili, oui, que quelqu'un qui serait vil dans sa tête, oui, même si à la fin, oui, celui qui est avili dans sa tête, il se détruit complètement, oui, mais, oui, donc ça, il essaie de savoir qu'est-ce qui est là. On n'est pas, on va dire comme ça, on n'est pas dans les catégories morales dans cette discussion. Sinon, effectivement, ou alors Rav est dans les catégories morales, peut-être. Peut-être Rav dit moralement, l'homme qui avili moralement, oui, qu'est-ce que tu veux qu'il lui reste ? C'est vrai, mais je voudrais dire, on n'est pas ici dans la moralité, oui. On est dans la destruction de l'homme. Oui. Tu mets quelqu'un, tu le fais ramper, oui, même si dans sa tête, il essaye de se défendre, mais à force de ramper, tu l'écrases. Le corps lui-même est faible, il est facile à abaisser. Oui. On peut, à travers le corps, on peut humilier, oui, avilir, humilier plus facilement. Bon, alors très bien. Alors déjà, il y a une opposition. Oui. Voilà ce que le Maral décrit. Il y a une opposition. Il y a, disons, la sortie, oui, d'un avilissement ou d'une incompréhension dans la réflexion, dans la pensée ou dans la sensibilité, l'acquisition d'une chorma, on va dire, chorma de Torah. Mais il y a autre chose. Oui. Il y a autre chose, il y a un autre axe, oui, c'est arracher son corps à ses pesanteurs. À l'esclavage. Bon, si c'est carrément l'esclavage en Égypte, ou si on est dans un autre registre, on est un peu plus dans la métaphore, oui, il y a les pesanteurs du corps, et il y a, si vous voulez, le comment s'arracher, oui, comment arracher le corps à un avilissement lié au corps. Comment se débattre avec soi-même, se débattre avec tout ce qui nous a servi, du dehors ou du dedans. Du dehors, bon, ça c'est égyptien, mais je comprends aussi même du dedans, ça veut dire tout ce qui sont, on va dire, les lourdeurs liées au corps. Oui. Ça, c'est un certain registre. L'homme, il peut être avili, bon, par l'Égyptien, si vous voulez, ou ben, peut-être dans un autre registre, par ses propres désirs, c'est une certaine manière d'être prisonnier de son corps. Oui. Il y a l'emprisonnement dans le corps, par autrui ou soi-même, simplement. Oui. Et puis, il y a, je dirais, l'emprisonnement, oui, ou l'égarement, c'est un autre registre, dans la sensibilité, dans la compréhension des choses. Deux axes. Oui. On se débat avec deux choses. Oui. Sortir de nos égarements, oui, d'une pensée errante, oui, essayer d'accéder à une chorma, de s'attacher à ce que la Torah veut nous apprendre. Et il y a aussi, en même temps, un travail de sortie, oui, un travail d'arrachement de nos personnes physiques, si on peut dire, nos personnes physiques, à tout ce qui nous a servi du dehors ou du dedans. Voilà les deux actes, si vous voulez, auxquels font allusion Rav d'un côté et Shmuel de l'autre. Je serais tenté de dire comme ça, de comprendre, donc un tout petit peu plus loin dans le Maharal, oui, il y aurait comme ça. Qu'est-ce qui est important pour l'homme ? C'est d'acquérir la Chorma, d'acquérir la Torah, de sortir de l'idolâtrie, ou bien, hein, ce qui est important, hein, plus important, c'est de se débattre. Ouais, c'est le débat qu'il a avec son corps. C'est sortir du gnout lié au corps. Lav davka, pas forcément du fait de l'Égyptien. Oui, ça, l'Égyptien, il a bon dos, oui, mais il sert aussi à dire, de manière plus large, on sort d'Égypte, oui, on se libère. Deux axes, si vous voulez. Acquérir la chorma, comme ça je comprendrai. Est-ce qu'il y a un axe pour l'homme ? L'homme s'élève en acquérant de la chorma. Il s'élève aussi en combattant ou en se débattant, oui, avec l'Égypte. Alors, il est aidé par Hachem, oui, là en Égypte, le combat n'est pas du même type, mais je comprends que quand même, quelque part, dans les Dorot, ça relèvera d'un certain combat, une certaine sortie d'Égypte. Oui, c'est ça qui m'intéresserait d'opposer. En ajoutant ceci, hors texte, oui, mais qui va de soi, qui traverse tous les textes, c'est qu'on ne peut pas si facilement dissocier les deux. Oui. Si vous voulez vous battre avec avec votre corps, oui, il faut aussi de la chorma. Oui. On ne peut pas dissocier les deux registres comme ça aussi facilement. Évidemment qu'il va falloir une Torah, une chorma, de la horma, de la ruse, oui, pour se débattre avec soi-même, pour se débattre avec sa personne. Et de l'autre côté, en se débattant avec soi-même, oui, on acquiert de la chorma. C'est dans les deux sens. En se confrontant avec soi-même, on comprend des choses. Donc, voilà. Vous voyez ? Donc, ce qui serait en jeu ici, malgré tout, et c'est ça que je voulais amener, on va encore finir ce texte-là, qui irait dans le sens de Michelet, oui. Je dirais comme ça, la ma'ala de l'homme, oui. Et je dirais, la ma'ala de l'homme, l'élévation de l'homme, elle se joue où? Et la ma'ala, ça sera son ashrei, oui, son bonheur, si on peut dire. Le bonheur de l'homme, c'est quelque part, oui, en tout cas dans ce passouk-là, c'est l'acquisition d'une certaine chorma. Mais, comme disait le Malbim, c'est surtout l'acquisition d'une chorma dans le combat. Donc c'est lequel des deux termes qui est le plus important, si vous voulez? Le terme de chorma ou le terme de combat? Pour acquérir cette chorma qui alimente le combat. Oui, les deux choses sont liées. Mais quand même, oui, c'est pas tout et dans tout et réciproquement. Il y a quand même quelque chose à entendre. Il y a une marque au avec Shmuel. Oui. Où ça se passe pour l'homme? Où est le, entre guillemets, bonheur de l'homme, c'est-à-dire l'accomplissement, je dirais, oui, un certain accomplissement. L'homme est heureux, oui, si on peut dire, dans un certain accomplissement, pour rester dans les termes de Malbim. Il est où cet accomplissement? Quand tu as acquis une chorma, quand tu as compris des choses, ou quand tu t'es libéré de tes lourdeurs intérieures, quand tu as le sentiment que tu as avancé quelque part dans ta personne, que tu as bougé quelque chose, un tant soit peu quelque chose dans ta personne, là tu existes. Oui. Sachant encore une fois que toutes ces choses-là sont liées. Oui. Tu ne vas pas bouger quelque chose en toi sans chokma. Oui. Et si tu bouges quelque chose en toi, hein, ça va aussi allumer quelque part un feu. Allumer, ouvrir une chokma. Je prendrai comme exemple, si vous voulez, ce qu'on dit à Purim. Oui. Là, il dit Maïta Ora, Vesimcha Sasson Vikor, Ora, là-bas on dit Zutora. Les Juifs ont eu, oui, de la joie, enfin c'est ce qu'on dit, Ora Vesimcha Sasson Vikor, de la joie et d'allégresse, enfin je vous passe les traductions variées, oui, c'est quatre synonymes de joie. Et seulement les Chachamis sont d'Orshim, Ora Zutora. Ils ont acquis la Torah, la Chochma, la Torah. Oui, mais comment ils l'ont acquis? En se décarcassant, en combattant Amalek, ce qui est une manière de dire la chose. Vous voyez, ici, cette Torah que les Juifs ont à Purim, la Udimaïta, Ora Vesimcha Sasson Vikor, ils ont eu de la joie, donc, je dirais du bonheur, c'est voisin ici, de la joie, vous voyez, de la Chorma, et qui dit Chorma dit Ashrei. Vous voyez. Mais ils l'ont eu comment? En combattant Amalek, en faisant Tshuva, en priant, ça aussi, et en combattant Amalek. Ils ont dû affronter quelque chose. C'est une épreuve aussi. Oui. C'est un Nisayon, peut-être parce que vous n'avez pas fait les missions comme il fallait, peu importe. À un moment ou à un autre, ils ont dû livrer combat. Un combat qu'ils n'avaient peut-être pas livré sur un autre terrain. Alors ils étaient obligés de livrer sur ce terrain-là. Ça, c'est une autre affaire. Mais il y a eu un combat à livrer. Et au bout de ce combat, il y a or. Donc ici, la lumière, oui, elle est conséquence du combat. Vous menez un combat, ça va vous éclairer votre vie. Mais quel est le terme principal de ce bonheur? C'est le combat ou le or qu'il y a après? C'est un petit peu ça la discussion entre Rav et Shmuel. Étant donné, encore une fois, qu'il n'y aura pas l'un sans l'autre dans les deux sens. Mais quand même, c'est quoi l'homme, si vous voulez? Comme ça, je dirais. Je pourrais dire dans un autre terme, je pourrais dire que peut-être que la chorma, c'est pas ce qui dit le plus l'homme. À la limite, oui, il y a des malachim dans le monde, ils en savent plus que nous. Par contre, le combat que l'homme il a dans ses lourdeurs, dans son corps, ça c'est l'homme. Et la chorma qu'il aura effectivement de ce combat, cette chorma-là, les anges ne l'auront pas. Ça c'est vrai aussi. Mais donc, où est l'homme, oui? Où se passe l'homme? L'homme, il se passe là où est son corps, dans le grandissement de sa personne, mais dans sa chair. Oui, c'est là que se trouve l'homme, et donc c'est là que se trouve son bonheur. Le hors de la Torah va être une conséquence, va être en amont et en aval, si vous voulez. Il faut de la chorma en amont et il y aura de la chorma en aval. Oui, mais ça c'est l'amont et ça c'est l'aval. Mais où est l'homme? Il est dans ce combat. Ça c'est Shmuel. Rav disant que non, l'accomplissement ultime, ben, c'est au bout du combat, si vous voulez, ben, c'est le or, c'est le fait d'accéder à une dimension de chorma pour la neshama. Le fait d'avoir une neshama, c'est-à-dire d'éclairer sa neshama, oui, parce qu'Abraham aussi, il mène des combats. Oui, il fait face à des prods, il mène des combats, Abraham, à sa manière. Oui. Mais le terme principal pour Rav, ben, c'est qu'il est sorti de l'idolâtrie. Il s'est arraché de l'idolâtrie. Avec lui a commencé ce qu'on appelle Torah, la Chorma. Donc il a grandi sa Neshama. C'était ça son. Il n'était pas esclave lui, par contre. Il est sorti de l'idolâtrie. Et il a, ce faisant, grandi sa Neshama. Mais est-ce que c'est ça principalement l'homme? C'est ce que Shmuel remet en cause. Il me semble, comme ça, comprendre cette discussion. Regardez la suite. Bevadai, Akadosh Baruch Hu asa le Israël Shneyem, Shatsilota Mignut Anefesh ou Mignut Aguf, Gamke. Les deux choses existent, dit le Maharal. C'est sûr qu'Hachem il a sauvé Israël dans les deux plans. Le salut d'Israël, oui, il est dans les deux plans, dans le Nefesh et dans le Gouf, dans la Neshama, dans l'âme, si vous voulez, comme ça, et dans le corps. Oui. Les deux choses existent. Ce qui veut dire surtout que les deux choses existent, elles sont parallèles et elles sont intriquées. On ne va pas faire une discussion naïve, opposée comme ça, oui, bêtement. Oui. Les deux choses sont liées entre elles. Shayu Mitrila Ovdi Avodah Zara, au départ ils étaient idolâtres, Vayelaim Gnout Anefesh, il y avait un abaissement du Nefesh avant Abraham, Vacharkar Itzilotam Gamken Mignout Agouf. Par la suite, oui, c'est fait aussi un travail par rapport au corps. Velo pligé. Rak Eize Yoter Gnout. Leur discussion est seulement sur lequel est plus un avilissement. Et je comprends à l'opposé que, comme il a dit avant, l'avilissement entraîne la Mahala. Oui, il y a un couple entre la Mahala et l'avilissement. Si tu me dis lequel est plus un avilissement, je comprends aussi lequel est plus une Mahala. Oui, lequel est plus une élévation de l'homme. Où est davantage, disons, l'accomplissement de l'homme? Si tu me dis que ça c'est plus un gnout, la sortie de ce gnout là, c'est plus une élévation, c'est plus un accomplissement de l'homme. Mais d'abord chez Yoter gnout, Raoui chez Yatrila. Donc celui qui est le plus gnout, oui, doit être nommé en premier. Vanu Kaimalan que Shmuel. Il dit on tient la lacha, si vous voulez, comme Shmuel, ou le fikar nous matriline par. Nous commençons par Avadi Maïnou. Donc l'asservissement physique des Juifs en Égypte. Déaf Shmuel modé chez Gnout Nafshi Ayalonu, ou le Fikar veut af, mais même Shmuel est d'accord que l'autre dimension existe, qu'il y avait aussi, il y a aussi une problématique, si vous voulez, de l'avilissement des sensibilités. Oui, il y a aussi un combat avec l'idolâtrie. Oui, il y a aussi un débat, on va dire plutôt qu'un combat, un débat avec l'idolâtrie. Ou le Fikar Yesaper Acharav, Mitrila Ovdi Avodah Zara. Donc même pour Shmuel, on commence par citer l'esclavage en Égypte, si vous voulez, mais l'autre aspect est aussi cité dans notre Agada. On dit après, Ovdei Avodah Zara, Oyu Avosenu, ça aussi, ça doit être dit. Les deux choses sont dites, mais en premier, Avadim Maïno. Regardez ce qu'il ajoute après, Maral. Il dit, Vefchar Lomar, on peut dire, Deaf le Rav, même pour Rav, De Afalgav, de Ikar Agnutu, ou Mitrilat Ovdavdazara Oyu. Même pour lui, donc lui, il pense que le vrai problème de l'homme, oui, c'est l'abaissement de sa neshama. Il dit, mais malgré tout, même pour lui, Yesh Latrid Bavadim Aïnou le Paro, il faut quand même commencer dans la structuration de la Haggadah par dire d'abord l'esclavage en Égypte. Pourquoi Mipne Sharaou il a tril le saper Kodem Atova chez Asakodesh Bourou, Imam Israël. Parce que de toute façon, il faut d'abord commencer par ce qui est la sortie d'Égypte, par la Tova que Hachem, le bienfait que Hachem a fait au peuple juif, chez Bishwil Zeraoui le saper Misraïm, oui, qui justifie la Haggadah. On va de toute façon commencer par Vedemaïnou parce que c'est ça la sortie de Pessah, c'est ça le Seder. V'chol advarim admitrila ovdei avoda zara, chez Shamou matril le saper Agnout ou Agdama, oui, et simplement pour Rav, ça servira juste d'introduction. Ça servira d'introduction. On va parler de la sortie d'Égypte parce qu'on est là pour ça. Il y a un manishtano, on mentionne comme la sortie d'Égypte. Mais du point de vue de l'avilissement, du point de vue de la problématique, on va dire ça, ce n'est que l'entrée, la Hagdama, l'introduction. Et le morceau de bravoure, si on peut dire, pour Rav, sera Mitrila ou Dervazara, Shesham ou Matril le Saper Agnout. Oui, c'est ça le. C'est ça le gnout important, oui. Le Ma'anou Chaïvin le Saper Bisset Mitzrayim. Oui. Le reste, pardon, oui. Oui. Venimsa ki agada azot, ou ben le Rav, ben le Shmuel, que Seder le Gamré. C'est intéressant parce que le Maral, là, ici, il veut dire l'agada qu'on a nous, de toute façon, elle correspond à Rav et à Shmuel. L'air de dire ici que la discussion entre Rav et Shmuel, ça c'est une remarque importante, elle n'est pas, on va dire, c'est pas une discussion la halakha au sens strict. On appelle une discussion la halakha, c'est-à-dire il y a une conséquence dans la halakha que pour Shmuel on aurait une certaine agada commençant par Rav Adimaïnou et que Rav on aurait une autre agada, vous voyez, un autre texte commençant par Mitrila Ovdei Avodah Zara ou Yom Hasinu et après Rav Adimaïnou. Vous voyez une discussion la halakha, tu commences par ça, tu commences par ça, halakha que Shmuel. Le Maral dit non, de toute façon, la Haggadah hein, pour les deux, ça sera d'abord Ovdei Aïnou et ensuite Mitrila Ovdei Avodah Zara ou Yom Hasinu. Ça ne change pas. Alors pourquoi ils discutent? De toute façon, même sur le fond, ça n'a rien changé. Quand vous avez une discussion à l'Alacha, hein, oui, de toute façon, il y a un enjeu de sens. Mais simplement ici, le Maral y force encore un peu plus. C'est-à-dire, c'est même pas une discussion de l'Alacha. Oui, on n'est même pas obligé de se laisser arrêter par un problème d'ordre. Oui, c'est d'entrée de jeu, c'est simplement une discussion sur où ça se passe. C'est plus évident, si vous voulez. Le Maral veut peut-être simplement nous forcer, oui, à comprendre que la discussion n'est que, oui, de savoir, oui, où ça se bat, où est la bagarre, où est la bagarre, où est l'enjeu essentiel dans cette histoire. C'est la sortie d'Égypte du peuple juif avec Moshe. C'est l'arrachement à l'Égypte. Il a fallu qu'il s'arrache. Hein, comme vous savez, on dit que c'est seulement un cinquième des Juifs qui sont sortis. C'est pas tous. C'est un cinquième des Juifs qui sont sortis d'après le Midrash. Pas tous. 4/5 sont restés. Si c'est pas plus, oui, si c'est pas sur 50 ou sur 500, le Midrash ne s'arrête plus. Oui. En tout cas, un cinquième, on va dire. Oui. Donc, il fallait que les gens s'arrachent. Visiblement, 4/5 se sont pas arrachés. Oui. Si c'est pas 49/50, oui, qui se sont pas arrachés. Pas simple. C'est pas pour rien. Même si on leur a fait tout le travail, les makotes et tout, visiblement, tout le monde n'a pas suivi. Vraiment, les makotes n'ont pas tout fait. Il fallait que les gens s'arrachent malgré tout. Ils ne l'ont pas tous fait. Un cinquième au mieux. Oui. Un cinquième au mieux. Donc il y a un arrachement. Et pour Shmuel, c'est ça le morceau. La sortie d'Abraham n'est pas l'essentiel, n'est pas le Icar. C'est un très grand travail. On vient tous d'Abraham, c'est-à-dire c'est lui qui a commencé. Mais l'air de dire, oui, c'est pas ça qu'on doit retenir. Peut-être qu'Abraham, il a aussi fait d'autres choses dans son corps, mais c'est pas ce qu'on raconte. Donc, dans ce qui est dit, oui, l'axe, dans ce qui est dit, dire la sortie de l'idolâtrie, c'est pas l'enjeu essentiel. Je comprends au moins pour ce que ça signifie de changement dans la neshama. Le changement dans la neshama n'est pas l'essentiel. Il va suivre, comme on a dit, il a eu dit Marita Arav Simcha. Il y aura de toute façon, on ne conçoit pas une bataille dans de l'homme avec son corps sans que, quelque part, ça l'élève dans sa, dans sa sensibilité. Mais encore une fois, on va dire le srar, si on veut parler un peu la langue du Malbim, la récompense, entre guillemets, le rendu, je traduirais comme ça, le rendu de l'effort, le rendu, oui, il est dans le combat, oui, je dirais de libération, si vous voulez, ici à l'administration, mais c'est une libération, dans le combat de libération de tout ce qui a servi l'homme dans son corps. C'est là qu'il y a le rendu. Le rendu, justement, d'ailleurs, à la limite, en termes de chorma. Le rendu, c'est-à-dire en ce que l'homme va aussi, à travers ça, acquérir une chorma. Mais c'est déjà le rendu. Ouais. Le combat, il était, si vous voulez, dans le combat face à l'asservissement du corps. L'être humain, il a une chair, ouais. il se débat avec sa personne. C'est pas si simple que ça. Ouais. C'est ça l'enjeu essentiel. C'est là où il y a le srar. Un peu comme disait le Malbim, une chorma qui n'était pas beteva, où la personne a dû s'arracher, j'imagine, à des pesanteurs dans sa personne, oui. Là, il y a Osher. Le Ashrei, oui, il réside moins dans le fait qu'on a compris des tas de choses, oui, que dans le fait que ce qu'on a compris, c'est parce qu'il y avait un combat avant. Comme ça, en vrai, à la Chakushmuel, voilà, s'il y avait une manière, disons, de qualifier le Ashrei, oui, de dire ce qui rend l'homme heureux, oui, ça serait le fait qu'il se libère à force de Chorma aussi, mais pas seulement, oui, parce qu'il y a aussi un travail en soi. Oui, un travail de libération dans sa personne, repérer, il y a un travail de repérage, il faut repérer par quoi on est asservi, et puis essayer de bouger ça. Il y a un repérage, ça c'est un travail de Chorma, puis il faut le bouger. Et de l'avoir bougé, ça peut comprendre des choses, c'est vrai, mais ça c'est déjà un aval, c'est déjà, bon, après. Mais la bataille, ce qui va être le Ashrei, oui, c'est c'est sur le combat que ça se joue. Comme ça, je comprendrai ici ce maral. Parce que je vais dire, si vous voulez, l'Aïdi Maïta Aura Vesimra Sassan Vikor, c'est déjà un frère, si vous voulez. Ils se sont battus, alors ils ont accédé à. Ils ont eu de la Simra, et du Or, et de la Chorma. La Chorma, c'est déjà le bonheur lui-même, et qui récompense un combat. Voilà ce que je voulais amener comme déplacement par rapport à Ashrei Matsa Chorma. Mais il y a quelque chose avant, oui. Matsa Chorma, oui. Mais il n'a pas trouvé par terre dans la rue comme un billet de 50 francs, 50 euros. Oui. Il a dû travailler pour ça. Matsa, oui, c'est il a trouvé parce qu'il a cherché, comme on dit. Oui. Il a cherché, il a fini par trouver. Dans ce sens-là. Oui. Alors, il y a une aide, oui, on va dire comme ça. Il y a une Ashgaha, Hachem, il aide, oui. Mais il y a un travail, c'est peut-être ça. C'est les makot, si vous voulez, il y a un accompagnement. Hein, mais je comprends que l'homme se débat, oui, quand on se débat avec son corps, au fond, oui, quelle que soit la chorma qu'on a, on ne sonde pas, on n'arrive pas à se sonder, on n'arrive pas à sonder tout ce qui fait résistance en nous. Oui. Je pense l'aide d'Hachem est dans le fait que on arrive en se battant, on arrive à se battre contre nous-mêmes, alors que quelle que soit la lampe de poche qu'on a, quel que soit l'éclairage qu'on a, on est surtout dans un tunnel. Oui. Je pense l'aide est que on essaye de bouger des choses et quelque part ça bouge, oui, mais on n'est pas tout seul à avoir fait bouger. Comme ça je dirais. L'aide d'Hachem est que on tente quelque chose, on tente de se bouger, oui, et le peu qu'on fait, on va dire, est prolongé, oui, par une autre main. Comme ça je dirais. Qu'on ne voit pas. Comme ça, je décrirai, si vous me demandez l'intervention d'Hachem, je dirais, on fait quelque chose, on a à faire quelque chose, on se débat, le résultat, il est l'œuvre d'une autre main. Le part de l'acquis. Je comprends que ce qui va... C'est un petit peu ce que Shmuel explique, c'est que c'est moins un travail, disons, d'acquisition de chorma, c'est important, oui, qu'un travail de détection de nos asservissements. C'est un autre travail. Par quoi je suis asservi? De quoi je suis prisonnier dans ma vie? De quoi? De qui? C'est toujours plus facile, mais de quoi en moi-même? De quoi je peux être prisonnier? Oui. On le sait au fond. On sait très bien, on a des prisons et autres. C'est là que ça se passe. Qu'on arrive à bouger, pas forcément rentrant tête baissée dedans, parce qu'il faut ruser, il faut de la chorma, mais ce qu'on arrive à bouger, arriver à bouger des choses. Comment, pas forcément rentrant tête baissée dedans, la stratégie, c'est un autre problème, oui. Est-ce que c'est de l'ordre du moussard, de la chorma? Mais il y a un combat à mener contre ça. Alors que le travail de chorma ne dit pas ça. Le travail de chorma, c'est il faut comprendre des choses. Il faut comprendre des choses, mais il faut aussi détecter par quoi on est asservi, parce que les choses par quoi on est asservi, aussi elles empêchent de comprendre. Visiblement, on accède à un or quand on lève nos asservissements. Ça, c'est ce que je comprends de la Udi Maïta Orab Sir Sasson Vikor. Pourquoi Torah? Pourquoi après avoir combattu Amalek, on a Torah? Ça, il faut comprendre. Alors, ça reste un peu dans ce que je dirais. Oui, allez-y. Oui, c'est comme ça. Il y a le travail d'Hachem. C'est Hachem a fait un travail. Oui. Sans Hachem, on ne serait jamais sorti. Ça, c'est juste. Ça veut dire qu'il a fallu, ça, c'est la main, enfin, qui ici n'était pas obscure, qui était dévoilée, ce qui est, si vous voulez, le nez d'Égypte. Mais concernant les Juifs, le seul fait qu'on dise qu'un cinquième seulement est sorti, je comprends, sans qu'on ne l'écrive, le travail n'est pas décrit en tant que tel, je comprends que ça n'est pas de soi. C'est pas que Hachem est venu faire des nissi, mais tous les Juifs sont sortis.
Là, on parle du mérite, peut-être. On parle de. On a dit qu'ils aient gardé leur nom.
Oui, alors, voilà, par exemple, ils détruisent. De ce type.
Quel travail ils ont fait au niveau de leur chorma?
Non, au niveau de leur personne. Ça veut dire qu'ils ont, ils ont au moins décidé de suivre Moshe. Je vois qu'ils n'ont pas tous décidé de suivre Moshe, donc certains ont décidé qu'ils étaient bien en Égypte, qu'ils étaient bien là. Où ils étaient asservis ou pas asservis, ces 4/5, je ne sais pas. Oui, mais ils étaient bien en Égypte. Même ceux qui sont sortis, on voit que dans le Midbar, ils ont de temps en temps un peu la nostalgie. Oui. Donc je comprends, on ne nous décrit pas ce travail. Ce que je veux dire, c'est que ce travail-là, hein, oui, ce travail... Oui, oui, mais les Bnei Israël ne sont pas tous sortis, c'est un autre plan. Ça, le texte ne le dit pas. Ça, le texte ne rentre pas là-dedans, mais je comprends que il y a une sortie. Le texte met l'accent sur le fait que dans cet état-là, ils n'auraient pas pu se sortir eux-mêmes contre Pharaon. Il y a là une intervention, oui, il y avait, si vous voulez, mais c'est aussi une métaphore. Contre ça, on a aussi un Pharaon entre nous, au sein de nous. Ça veut dire il y a des résistances ici que Hachem fait sauter qui sont plus fortes que nous. Hachem les fait sauter. Mais je comprends quand le Midrash dit il y a un cinquième, je comprends qu'il fallait quand même vouloir. Il a quand même fallu qu'il se dire carcasse tant soit peu, même comme dit Rashi avec deux mitzot calottes, deux mitzot, deux petites mitzot, comme ça il veut dire. C'est un aspect des choses, hein, le Corban Pessar, il fallait aussi qu'il le fasse. Il prenait un certain risque, oui, il titillait un peu les Égyptiens quand même. La Mila, voilà. Oui, voilà. Il prenait un certain risque. Voilà, il prenait un certain risque. C'est un aspect de la chose, oui, mais je pense aussi le fait qu'ils ont eu confiance dans Moshe. Faire confiance, oui, quelqu'un qui débarque, qui dit on va sortir, l'esclavage. Non, mais ici, je parlais ici, en soi, du fait de refuser l'asservissement. En soi, que, si vous voulez, l'acquisition de la chorma n'était pas, oui, l'enjeu principal, mais ici, l'enjeu principal, ce que vous dites, Shmuel, c'était le fait de refuser un asservissement, quel qu'il soit, en tant que tel. Oui. Parce que je dis quand il y a un combat dans la Chorma, ça veut dire ici le combat dont parlait Michelet, c'était aussi un combat contre son Teva, un certain asservissement à refuser la Chorma qu'il fallait d'abord vaincre pour ensuite accéder à la Chorma. Donc c'était le rapport à son corps, oui, qui était premier. C'est grâce à un certain combat dans son corps qu'on ouvre les voies de la Chorma, oui. Donc il y a un combat d'abord contre un certain asservissement qui est premier, oui, qui n'est pas beaucoup dit, mais qui est quand même suggéré. Quand le Midrash dit un cinquième, je ne sais pas d'où il le sort, oui, un cinquième seulement des Juifs sont sortis, il y a une source comme ça? Pardon? Ramushim, ah, on est de Ramushim, oui, un cinquième ou un cinquantième. Donc, mais bon, il y a un smar comme ça, si vous voulez, dans le Passouk, mais dans l'idée, donc, dire c'est pas allé de soi. Il faut pas non plus, c'est pas Hachem qui a fait tout le travail. ça qu'on veut dire. Sinon, il suffit de dire il y a eu les 10 Makot, et puis tous les Juifs sont sortis. Effectivement, tout n'était que du côté de Pharaon, oui. Et Hachem a forcé Pharaon, et puis voilà. Je comprends qu'il y a un âme qui a écouté Moshe, qui a suivi Moshe, et là, Hachem a ouvert les portes, il a forcé Pharaon. Mais parce qu'il y avait un âme prêt à sortir, il y a un cri, oui. Le cri aussi, c'est déjà une reconnaissance d'un asservissement, et quelque part, au moins, la volonté d'en sortir. Peut-être ça suffit, ce cri-là. Déjà avoir ce cri-là, oui, de prolonger, être prêt à prolonger ce cri dans une confiance à Moshe, c'est déjà un travail en soi. Oui. Les 4 cinquièmes ont détourné le regard et l'oreille de Moshe. Comme ça, je dirais. On ne nous décrit pas plus, effectivement, le travail. Ici, on dit, par exemple, les Sruyot aussi. Il y a d'autres Sruyot, ils ont gardé leur nom, les Sruyot des femmes aussi, qui ont enfanté, etc. Il y a des Sruyot qui sont dits, de ci, de là, le Midrash cite un certain travail, au moins de résistance. Oui, un travail de résistance, c'est aussi déjà un préalable à une libération. Oui, oui, allez-y. Oui, par exemple.
La décision quand même de les tuer.
Oui.
Avant que la mer rouge s'ouvre, donc il y a quand même le fait de repousser sa peur.
Oui, oui, par exemple.
Croire à la force main, c'est d'accepter. Et le combat, c'est aussi peut-être de voir l'esclavage comme une autre forme d'asservissement, c'est-à-dire comme un confort aussi. C'est-à-dire que les 4 cinquièmes qui ne sont pas sortis, peut-être.
Il y avait ça aussi, oui. Oui.
Ils étaient mis en esclavage par des idolâtres.
Oui.
Les Égyptiens étaient des idolâtres.
Il y avait les deux, simplement ramener. Oui.
Donc en fait, il y a des idolâtres qui mettent en esclavage les Hébreux qui, eux, ne sont pas idolâtres.
Oui.
Donc la sortie d'Égypte, c'est une sorte de renversement aussi
oui.
de cette hiérarchie. C'est-à-dire que par la Chokhma, le peuple hébreu, finalement, arrive à démontrer que l'idolâtrie de Pharaon n'est que du vent.
Oui, bien qu'on ne les voit pas faire un effort de Chokhma, on ne les voit pas démontrer quelque chose. Par contre, ce que vous avez dit dans un premier temps, c'est-à-dire, par exemple, le fait de lutter contre leur peur ou de ne pas s'installer dans leur asservissement, de détecter cet asservissement comme étant un avilissement et non pas un confort, ça c'est intéressant, c'est-à-dire, on a des conforts qu'il nous faut détecter comme asservissement, vous voyez, par exemple. Donc, ils ont compris que leur asservissement, peut-être parce qu'il était dur, mais on peut affiner un peu. En tout cas, ils ont effectivement, comme vous dites, détecté dans leur asservissement un asservissement, là où peut-être d'autres ont vu un certain confort, ou en tout cas étaient prêts à négocier, oui, à négocier une certaine dose d'asservissement contre un certain confort. C'est souvent comme ça, on négocie. On remarque bien que c'est un peu asservissant, mais ça offre des garanties. Oui. Et aussi, par exemple, effectivement, ça envoie effectivement qu'ils ont... Ils ont maîtrisé leur peur, oui. Ils ont eu peur dans un premier temps, mais ils ont maîtrisé leur peur, ont franchi, sont rentrés dans la mer. Ouais. Ce genre de travail, oui, est libérateur avant d'arriver à Matan Torah. On arrive à Matan Torah après. Oui, il y a d'abord Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yam Souf. Dans Kriyat Yam Souf, d'ailleurs, on dit ils voient des choses que Yechezkel, même Yechezkel n'a pas vues. Donc ça veut dire, mais parce qu'ils ont peut-être maîtrisé leur peur, parce qu'ils ont osé affronter la mer. Oui, c'est quand même, il y a quand même ça avant. Après, il y a un or, mais un or qui vient du fait qu'ils ont maîtrisé leur peur. Pas du fait qu'ils ont, en tant que tels, cherché à avoir une vision. Ils n'auraient pas eu de vision s'ils n'avaient pas d'abord maîtrisé leur peur. Un petit peu comme ça, je dirais. Sachant que, de toute façon, maîtriser sa peur, oui, ça vient aussi. Ils ont aussi été aidés par Moshe. Ça vient aussi d'une chorma. Oui, on ne peut pas dissocier. La chorma joue son rôle. Mais, on va dire, toujours pareil, il y a un moment entre la poule et l'œuf, il y a un moment où il faut décider où ça commence, quand même. Un peu comme ça. Et c'est un marloquet Rabbi Shmuel. Oui. Alors, le Malbim dit simplement un point dans Me Ushar. Il dit, dans la Chochma, Il va quand même leur dire, même s'il y a moins de combats, hein, de toute façon, leur Chorma est au cher. Mais, oui, il a quand même. Voilà. Même si c'est plus facile, oui, la Chorma, quelque part, donne un au cher. Simplement, c'est le premier propos où il disait, mais il est clair, oui, que le au cher est d'abord lié à un combat. Simplement, ici, il y a quelque chose de plus qui est dit, oui. De même qu'il dit le combat, on pourrait penser qu'il use, oui. Eh bien, il n'use pas forcément, il donne aussi de la vie. Il y a une bracha dans la Chorma, oui, qui effectivement transcende le combat. Ça, c'est vrai, ça vient nuancer la chose. C'est-à-dire que dans la Chorma, quelqu'un qui a un éclairage, oui, même si le combat était moindre, l'éclairage de la Chorma en soi aussi, c'est un hocher. Oui, c'est aussi un hocher. C'est vrai que Malbim dit ça. Voilà. Mais il a quand même lâché dans un premier temps que le premier hocher, le hocher évident, il est le résultat d'un combat. Simplement, ce que vous dites, ça va nuancer. Enfin, ça, c'est pour ce que vous dites dans le Malbim, hein, quand il dit même s'il y a moins de combats, de toute façon, il est Mehouchar. C'est vrai, ça va nuancer. Mais il a quand même dit deux choses, le Malbim. Hein. Il a quand même dit dans un premier temps que c'est clair que là où il y a un combat, hein, c'est là où il va y avoir un Hocher. Simplement, la Chorma par elle-même, le fait qu'il y ait une élévation d'un Neshama, en soi, c'est encore un Hocher. En soi. Un deuxième aspect. Voilà, c'est un deuxième. Alors, il veut dire, on n'a pas besoin de dire. Alors, lui, il veut dire ça, on n'a pas. Oui, alors il dit ça, l'autre, ça rire. Il voulait dire. On a dit le plus grand chidouche, que celui qui lutte, ouais, on pourrait croire que les luttes, elles usent, mais dire celui qui lutte, ouais, pour la Chorma, hein, il aura de la vie de ça. Ça ne va pas l'user. Mais ça, c'est le plus grand chidouche, parce que j'aurais cru que ça use, mais ce qui va de soi, il voulait dire, l'air de dire, c'est assimilé que c'est dans le combat, hein, ouais, pour Malbim, c'est acquis que c'est dans le combat, hein, ouais, que se fait le hocher de l'homme. Ouais. Parce que vous avez dit sur Matsa, hein, ça, il voulait juste dire, Matsa, c'est juste une image par rapport à Yafik Tevuna. La Chorma, par rapport à la Tevuna, par rapport à ce qui est de l'ordre de la compréhension des choses, où il faut y aller, il faut faire un travail de réflexion, la Chorma, c'est une donnée première, c'est de l'ordre de Matsa. Mais il ne veut pas dire que ça se trouve sous le sabot d'un cheval, c'est aussi un travail, mais ce n'est pas le même travail que le travail de Yun. C'est quand même collecté. Je dirais ici, Matsa, pas comme trouver un petit peu comme ça dans la rue, mais collecté. Il y a qu'à, on ramasse, on amasse. Sinon, ramasse de la Chorma. Ça, c'est le terme Matsa, comme veut le dire Mabim. Oui.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Par rapport au propos de tout début, par rapport à l'allure un peu grecque du propos, la différence essentielle avec la sagesse grecque, c'est la notion de combat ou...
S'il fallait le dire comme ça, je dirais oui. Parce que c'est jouer le hocher de l'homme, oui, dans le combat avec son corps. Je ne sais pas si les Grecs parlent plutôt la langue d'une félicité dans les lumières de l'esprit, ce genre de choses, oui, c'est plutôt dans ce sens-là.
Ouais.
Ici, l'aspect dynamique, l'aspect mila, hein, si vous voulez, l'aspect circoncision, arracher des choses au corps, arracher de l'opacité, de la orla, dans le corps même. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est plus spécifiquement juif, oui. Arracher les opacités liées au corps. Oui. Ça, c'est. Le monde grec n'a pas. Ne travaille pas dans cette direction-là, c'est clair.
Historiquement, c'est intéressant parce que historiquement, on commence par Abraham.
Oui.
Donc on commence par la Chorma.
Oui. 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 Vous voulez prolonger ? Oui, oui.
Non.
Oui, ça veut dire que, oui, on pourrait même dire que c'est le travail d'Abraham qui a précédé, qui a permis le second travail. Oui. La Chorma, elle est en amont et aussi en aval, puisque après la sortie d'Égypte, il y a Matan Torah. Donc, on ne peut pas dissocier simplement les deux choses, oui, mais il y a le champ de bataille. Où est le champ de bataille ? Le champ de bataille n'est pas au Arsinaï, quoi. On veut résumer un peu vite comme ça. Il y a aussi Milchamta chez le Torah, oui, mais justement, c'est une Milchama. Oui, oui, allez-y. Oui.
Ça va pas dans le sens de manière de dire que Abraham qui a été créé comme Adam a été créé avec la science infuse.
Oui.
C'était la lumière, et puis ensuite il y a eu toute une déchéance par les luttes successives de Cain.
Oui, ou la faute propre d'Adam lui-même, oui.
Restaure la lumière première.
Oui, je comprends. Alors, il faudrait dire comme ça, alors ça c'est un autre débat. Ce qu'on veut dire, c'est Alpaim Tohu, c'est-à-dire que cette élévation-là, quelque part, elle n'a pas tenu. Est-ce qu'il y avait une autre voie possible? Voilà. Mais cette élévation-là n'a pas tenu. Il y a eu le Chet d'Adam Harishon. Dans quelle mesure il n'était pas déjà inscrit dans la création elle-même? C'est le premier homme est créé, il n'est pas sitôt créé qu'il faut. C'est une donnée du monde. Parce que la Gemara, elle vient après ça. Ça veut dire cette dimension haute, elle n'a pas tenu d'emblée. Il a fallu comme un détour. Un peu comme si le Chet d'Adam Harishon, il était inscrit presque dans la Bria. C'était un détour obligatoire. Oui. C'est toujours pareil, hein. À la Bemarchava, il y avait, parfois on dit à la Bemarchava, il y a une possibilité autre. Mais le Maasé, la réalité, on va dire ici, la réalité est qu'il a fallu un détour jusqu'à Abraham avant qu'on ne revienne à l'endroit où se trouvait, à peu près à l'endroit où s'est retrouvé Adam Harishon avant la faute. Oui. Donc quelque part, le Olam Hazé, on va dire, en tout cas pour ce qui est de l'espace humain, il n'accepte pas, c'est un constat, on va dire, il n'accepte pas d'entrée de jeu à sa Mahala. Adam Harishon a été mis dans une certaine Mahala, mais le fait est que ça s'est effondré. Oui. Alors, il y avait peut-être une autre voie possible, oui. Le fait est que, si vous voulez, oui. Le fait est que dans l'ordre de l'humain, la première chose qui se produit, c'est que quelque chose. C'est que la Mahala ne va, elle va devoir être conquise, elle va devoir être reprise avec les siècles. Elle était innée, donc pas acquise, oui. Elle était innée, pas acquise, on peut le dire comme ça. Il faut une acquisition. Oui, juste. Il faut une acquisition. Il n'y a pas eu ce combat-là, donc. Mais disons sur le thème même que d'abord on commence par l'obscurité, de fait, c'est oui, de fait. C'est pas à la Bemarchava, mais c'est de fait. Le Olam Hazé impose, on pourrait presque dire, sa réalité. Oui, Adam Harishon, l'humanité d'Adam Harishon impose le Chet d'Adam Harishon, si vous voulez. Non, on parle après ça, c'est-à-dire on sait que quelque part. Alors non, mais simplement, d'abord, même le Chet d'Adam Harishon, beaucoup de Mefarshim présentent ça comme un shogeg, c'est pas un mézid, oui. Donc c'est un shogeg, c'est-à-dire bon, il y a un croche-pied quelque part, ça, c'est une donnée du monde, oui. Il y a des shgagot, il y a des. Oui, il y a du. Pardon? Chet, c'est shogeg, oui, même le Chet, et puis. Il y a beaucoup de kaparot de Yom Kippour qui sont sur Touma Beshogeg dans le Beth-Amikdash. Oui. Le Beth-Amikdash, il est censé être Tahor, les Kohanim le gardent, mais on se doute bien, oui, sans pouvoir mettre la main dessus, qu'il y a de la Shgaga et donc de la Touma. Oui. On peut le dire comme ça. Ça veut dire, en termes de Shgaga, votre question était en termes de Mézid, ça non. Oui. De Mézid, on ne fait pas, mais il y a de la Shgaga, on va dire. Il y a de la Shgaga, il y a du dérapage qui a des conséquences. Même Adam Harishon, la faute était dans un certain registre de Shgaga. Il n'a pas très bien compris, Chava non plus. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas compris? Ça, c'est un autre problème, oui. Oui. Donc, oui, dans ce sens-là, donc, c'est pas que la faute est souhaitable, mais elle va, Bishgaga, elle va se produire. Oui.
Qui est un manque qui font partie de la condition humaine,
Oui.
il faut se dégager de la forme. Et d'une certaine façon, et peut-être que c'est pour ça qu'on a dit que d'abord il y a la forme avant, on parle d'abord de sa forme et ensuite de cette épreuve, mais pas dans l'autre sens. Est-ce que ça ne pourrait pas nous enseigner que plus il y a de forme et en fait plus on ressent de lourdeur dont il faut se dégager? C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui n'a pas de forme se sent beaucoup moins lourd. Quelqu'un qui en a déjà acquis pas mal.
Oui, c'est vrai aussi.
On a, parce qu'on a un peu l'impression d'accepter, on se bat et on arrive à la lumière, mais en réalité,
Oui.
la lumière généralement révèle une grosse lourdeur et ainsi de suite.
Oui, ça c'est ce qui avait été cité aussi, on dit Marbé Chorma, Marbé Kehev, oui. Quelqu'un qui ajoute de la Chorma, il ajoute de la souffrance. Alors simplement, je vais dire, mais, si vous voulez, donc, il y a effectivement hein, une problématique entre la Chorma qui donne la souffrance et en même temps, Ashrei Matzah Chorma. Donc je pensais, il y a deux axes, pardon, oui, il y a deux axes. Disons, c'est le combat oui, qui renverse, ça y arrive, oui, qui tente de renverser de Kehev vers Ashrei. Donc ça a le mérite juste de. on est moins dans le gai savoir, oui, la hocher, le hashrei, oui, il est à la mesure du combat qu'on aura réussi à mener, oui, contre nos lourdeurs, étant donné que la chorma nous révèle d'abord des asservissements, donc un kéev, oui, simplement, le kéev n'a pas forcément le dessus. On peut espérer, oui, que le combat ait le dessus, oui, et qu'on accède à un hashrei. Mais, votre remarque est très juste, oui, marbe chorma, marbe kéev, oui, il y a d'abord, détecter des asservissements, c'est aussi détecter des souffrances, oui, c'est aussi multiplier la souffrance parce que on est désarmé. Oui, il faut. C'est là que vient une notion de tefila, il y a besoin de l'aide d'Hachem, c'est aussi ce que vous demandiez, oui. Où est l'aide d'Hachem? Oui, elle va être là, oui, elle va être dans un combat, oui, où le hashrei est peut-être au bout, oui, en attendant le kéev est déjà là. Oui. C'est-à-dire, on est désarmé, oui. Et on va être aidé par Hachem, il y a une aide d'Hachem. Mais je dirais, la seule possibilité de Hachrei, de sortir, disons, d'une chorma, disons, d'un savoir désespéré, oui, c'est de ne pas perdre, oui, l'idée d'un combat. Parce qu'il y a le danger de la chorma désespérée. Il y a ce danger-là. Oui. C'est trop de choses, on a vu, il n'y a rien qui bouge, bref, oui. Il y a un kéev, oui, et il y a de quoi, il y a aussi de quoi, les choses ne bougent pas tellement, oui, c'est pas euphorique, oui, ce que je veux dire, mais il y a une possibilité de combat, une possibilité de hacherie. Non, alors, le Malbim, je ne connais pas bien les datations, mais c'est un mefaresh récent, on va dire, relativement récent, je ne sais pas si du 17e siècle ou comme ça, oui, 17-18e, ouais. Pardon, 18e 18-19, peut-être même le 19e siècle, donc relativement récent. Shmuel, c'est la Gemara. Shmuel, c'est quelqu'un de la Gemara, donc c'est il y a une vingtaine de siècles ou 19 siècles, en amont d'ici. Donc Shmuel, c'est une marloquette dans le Talmud, si vous voulez. Shmuel et Rav, oui, sont des Amoraïm, oui, les premiers des Amoraïm, pour ces drames, en tout cas, les premiers des Amoraïm, à la jonction entre les Tanaïm et les Amoraïm, au 2e siècle, peut-être, au 1er siècle de l'ère chrétienne, on va dire comme ça. Donc c'est ancien. Le Malbim, très récent, 18-19e siècle, probablement. Ah non, deux plans différents. Hein. Et le Maral est entre les deux, lui c'est le 16e siècle. Hein. Oui.
Vous avez abordé les deux axes, effectivement, de l'asservissement, soit sur le plan physique, soit sur le plan de l'esprit,
oui.
De pensée. Et je crois que les pays nous permettent d'avoir une vision assez particulière de la chose. Télim commence par Ashre Aish, Asher, le Allah, le Ratsan, Asharim. Le Hataim, le Ramad, le Moshav, le Tigre, Yashar. Donc, il pose la triple condition pour qu'un homme soit heureux. Et ensuite, on va voir qu'il est indiqué Réchit Chorba, dire Ad Shamayim. Donc, on semblerait dire que le bonheur, c'est dans la lutte de la compréhension immédiate de ce que l'homme a face à lui, des méchants, des moqueurs, donc un environnement qui est malsain.
Oui.
Mais par contre, la sagesse, qui est l'entendement supérieur, lui, il viendrait justement de la crainte de Dieu.
Oui, bon d'accord, mais...
Mais, justement, donc, c'est-à-dire que, est-ce que le bonheur est à mettre en parallèle, en opposition, en complément à la sagesse? Pour moi, c'est les deux en même temps, forcément. C'est-à-dire que la construction du bonheur amène la sagesse et la construction de la sagesse amène le bonheur.
Oui, ça on a dit. Ça veut dire que les deux choses sont liées. Simplement, où on va dire, par exemple, dans les Tchénim, vous voyez que Ashrei, il va être dit dans une problématique de face au Orshaïm, au menteur, c'est une problématique un peu de combat, oui, de s'arracher. Enfin, alors que quand vous dites Trilat Chorma Yirat Hashem, on ne parle pas de Ashrei d'ailleurs là-dedans. On parle juste de la chorma, on l'acquiert dans une crainte d'Hachem. Oui. On ne cite pas ici le problème du Ashrei. Oui. C'est autre chose. Oui. Le lien avec Ashrei n'est pas dit ici, en tout cas. Il va être dit dans Ashrei Matzah Chorma. Oui. Les liens ne sont pas... Là-bas, on ne parle pas de ça. Alors qu'on va citer effectivement Ashrei dans la problématique de quelqu'un qui se dégage. Oui. Or, la riche hout et tout ça, c'est les problématiques du corps de l'homme. C'est les problématiques de la chair de l'homme. Oui. Il y a des menteurs, il y a des rechaïm, il faut se débattre avec ça, en soi-même aussi, au dehors, en soi. Voilà. Ça, c'est Ashrei. Oui. Il y a une problématique de la Chochma qui est sans rapport avec le Ashrei, et même peut-être plutôt en problématique avec un Kéhev, avec une souffrance à la limite. Ce qui va relier la Chochma, insuffler de la joie, on va dire, dans la Chochma, hein, ça sera le combat. La Chochma par elle-même, elle amène plutôt d'abord à un constat, oui, un constat de désolation, oui. C'est le combat qui va faire bouger. Qohelet, par exemple, c'est un texte de... C'est la Chochma, si on veut, oui. Et Qohelet, le ton premier, au point qu'on s'est demandé, même si ce n'était pas Apicorus, c'est un tel constat, c'est une telle désolation. Je pense que l'enjeu des Chachamim pour considérer que Qohelet n'était pas d'Apicorsout, c'est d'y avoir vu, oui, bon, Yirat Hashem, si vous voulez, ou d'y avoir vu peut-être justement un combat, pas seulement un constat. Oui. Sur un pied, hein, sur un pied. Mais non. Disons, parce que c'est un tel constat catastrophique, on va dire, on dresse un constat, oui, ça, c'est dangereux. C'est pas ça qu'on attend de la Chochma.
Mais... La conclusion de Colette, c'est quoi? Soit d'avoir un Kohen Shema.
Voilà, c'est sur ça qu'il est sauvé. C'est ça qu'il sauve. Ouais, non, mais c'est, sur la ligne d'arrivée, quoi. Il est sauvé. Soit d'avoir. Oui, pardon?
Sauf d'avoir.
Sur la ligne d'arrivée, il est sauvé, oui. Oui.
Sauf d'abord, c'est col à Adam.
Oui.
C'est pas dit, c'est Adam.
Oui.
C'est col à Adam.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui.
Dans sa finalité, c'est Shomer Mitzvot, Veir Ad Shomayim.
Oui.
C'est les deux conditions.
Oui. Non, mais il nous fallait articuler. On avait tenté d'articuler par rapport à Ashrei. Je dis, par où rentre cette notion de Ashrei? Oui. Par où rentre cette notion de Ashrei? Oui. Je dis, la Chochma en tant que telle, quand on dit Matzah Chochma, Ashrei Matzah Chochma, c'est pas évident, c'est ça que je voulais dire. La Chochma d'habitude, on la lit justement comme liée à Yirat Hashem, oui, ce genre de choses. C'est pas lié, il n'y a pas d'axe d'habitude entre Ashrei et Chochma, c'est ça que je veux dire. La Chochma, c'est pas fait, c'est comme les rôles de Hanouka, c'est Assur Lianot Ba, si vous voulez. La Chochma, ça n'a rien à voir avec Ashrei a priori. Donc c'est ça que j'essaie d'entendre. Ça a l'air d'être deux notions, si vous voulez, un peu étrangères. On cherche pas le bonheur ou la Chochma, pour dire ça en français, oui. Où est le rapport entre les deux? Merci beaucoup.